Charles Darwin, 27 avril 1834. Le lit du fleuve se resserre un peu et en conséquence le courant devient plus rapide. Il fait ici environ 6 nœuds à l'heure. Cette cause, jointe aux nombreux fragments angulaires qui parsèment le lit du fleuve, rend le travail des remorqueurs fort pénible et fort dangereux. Aujourd'hui, j'ai tué un condor. Il mesurait 8 pieds et demi d'une extrémité de l'aile à l'autre et 4 pieds du bout du bec au bout de la queue. On sait que l'habitat de cet oiseau est géographiquement parlant fort considérable. Sur la côte occidentale de l'Amérique méridionale, on le trouve dans les Cordillères depuis le détroit de Magellan jusque par 8 degrés de latitude nord de l'équateur. Sur la côte de Patagonie, sa limite septentrionale est la falaise escarpée qui se trouve près de l'embouchure du Rio Negro. En cet endroit, le condor s'est écarté de près de 400 milles de la grande ligne centrale de son habitat dans les Andes. Plus au sud, on rencontre assez fréquemment le condor dans les immenses précipices qui entourent le port Desire. Bien peu, cependant, s'aventurent jusqu'au bord de la mer. Ces oiseaux fréquentent aussi une ligne de falaises qui se trouve près de l'embouchure de Santa Cruz, et on les retrouve sur le fleuve à environ 80 milles de la mer, à l'endroit où les côtes de la vallée affectent la forme de précipices perpendiculaires. Ces faits sembleraient prouver que le condor habite de préférence les falaises taillées à pic. Au Chili, le condor habite pendant la plus grande partie de l'année les bords du Pacifique, et la nuit, ces oiseaux vont se percher plusieurs ensemble sur le même arbre. Mais au commencement de l'été, ils se retirent dans les parties les plus inaccessibles des cordillères pour se reproduire en toute sécurité. Les paysans du Chili m'ont affirmé que le condor ne construit pas de nid. Au mois de novembre ou de décembre, la femelle dépose 2 gros œufs blancs sur le rebord d'un rocher. On dit que les jeunes condors ne commencent à voler qu'à l'âge de 1 an. Longtemps après encore, ils continuent de se percher la nuit près de leurs parents et de les accompagner le jour à la chasse. Les vieux oiseaux vont généralement par couple, mais au milieu des roches basaltiques du Santa Cruz, j'ai trouvé un endroit qu'un grand nombre de condors doivent fréquenter ordinairement. Ce fut pour moi un magnifique spectacle, en arrivant tout à coup au bord d'un précipice, que de voir 20 ou 30 de ces grands oiseaux s'éloigner lourdement, puis s'élancer dans l'air, où ils décrivaient des cercles majestueux. La quantité de fientes que j'ai trouvées sur ce rocher me permet de penser qu'ils fréquentaient depuis longtemps cette falaise. Après s'être gorgés de viande pourrie dans les plaines, ils aiment à se retirer sur ces hauteurs pour digérer en repos. Ces faits nous permettent de penser que le condor, comme le gallinazo, vit jusqu'à un certain point en bandes plus ou moins nombreuses. Dans cette partie du pays, il mange presque exclusivement les cadavres de guacano morts naturellement, ou, ce qui arrive plus souvent, ceux qui ont été tués par le puma. D'après ce que j'ai vu en Patagonie, je ne crois pas que les condors s'éloignent beaucoup chaque jour de l'endroit où ils ont l'habitude de se retirer pendant la nuit. On peut souvent apercevoir les condors à une grande hauteur, tournoyant au-dessus d'un endroit et exécutant les cercles les plus gracieux. Je suis sûr que dans certains cas, ils ne volent ainsi que pour leur plaisir. Mais les paysans chiliens m'affirment qu'ils surveillent alors un animal en train de mourir ou un puma qui dévore sa proie. Si tout à coup, les condors descendent rapidement puis se relèvent aussi vite, tous ensemble, les Chiliens savent que c'est le puma qui, surveillant le cadavre de l'animal qu'il vient de tuer, est sorti de sa cachette pour chasser les voleurs. Outre la viande pourrie dont ils se nourrissent, les condors attaquent fréquemment les jeunes chèvres et les agneaux. Les chiens bergers sont dressés chaque fois qu'ils aperçoivent un de ces oiseaux à sortir de leur niche et à aboyer bruyamment. Les Chiliens détruisent et attrapent un grand nombre de condors. Pour ce faire, on emploie 2 méthodes. On place le cadavre d'un animal sur un terrain plat, enfermé par une haie dans laquelle on a aménagé une ouverture. Quand les condors sont repus, on vient au galop fermer l'entrée, on les prend alors quand on veut, car quand cet oiseau n'a pas l'espace suffisant pour prendre son élan, il ne peut s'enlever de terre. La seconde méthode est de remarquer les arbres où ils vont fréquemment percher au nombre de 5 ou 6. Puis pendant la nuit, on grimpe à l'arbre et on les enchaîne. C'est d'ailleurs chose facile, car comme j'ai pu en juger moi-même, ils ont le sommeil très dur. À Valparaiso, j'ai vu vendre un condor vivant pour 60 centimes, mais c'est là une exception car il coûte ordinairement 10 à 12 francs. J'en ai vu apporter un qu'on venait de prendre. On l'avait attaché avec des cordes et il était grièvement blessé. Cependant, dès qu'on lui eut délié le bec, il se jeta avec voracité sur un morceau de viande qu'on lui jeta. Dans la même ville, il y a un jardin où on en conserve 20 ou 30 vivants. On ne leur donne à manger qu'une fois par semaine et cependant, ils paraissent se porter fort bien. J'ai remarqué que plusieurs heures avant la mort d'un condor, tous les poux dont il est couvert viennent se placer sur les plumes extérieures. On m'a affirmé qu'il en était toujours ainsi. Les paysans chiliens affirment que le condor vit et garde même toute sa vigueur si on le laisse 5 ou 6 semaines sans nourriture. Je ne puis affirmer la véracité de cette assertion. C'est une expérience cruelle à faire, ce qui n'empêche pas, sans doute, qu'elle n'ait été faite. On sait que les condors, comme tous les autres vautours d'ailleurs, apprennent bien vite la mort d'un animal dans une partie quelconque du pays et se rassemblent de la façon la plus extraordinaire. Il est à remarquer que dans presque tous les cas, les oiseaux ont découvert leur proie et ont absolument nettoyé le squelette avant que la chair du cadavre sente mauvais. Me rappelant les expériences de M. Audubon sur le peu d'odorat des vautours, je fis dans le jardin dont je viens de parler l'expérience suivante. Les condors étaient attachés chacun à une corde le long d'un mur du jardin. J'enveloppais un morceau de viande dans du papier blanc. Et tenant ce paquet à la main, je me promenais longtemps devant eux, à une distance d'environ 3 mètres. Aucun d'eux ne sembla s'apercevoir de ce que je portais. Je jetai alors le paquet sur le sol, à 1 mètre environ d'un vieux mâle. Il le considéra un moment avec la plus grande attention, puis détourna les yeux sans s'en occuper davantage. À l'aide de ma canne, je rapprochai le paquet de lui de plus en plus, jusqu'à ce qu'il le touchât avec son bec. En un instant, il avait déchiré le papier à coups de bec, et au même moment, tous les oiseaux de la rangée se mirent à battre des ailes, et chacun d'eux fit tous les efforts possibles pour se débarrasser de ses entraves. Il eût été impossible de tromper un chien dans les mêmes circonstances. Les preuves pour et contre le puissant odorat des vautours se balancent singulièrement. Le professeur Owen a démontré que le vautour, Catartes aura, a les nerfs olfactifs singulièrement développés. Le jour où M. Owen lut ce mémoire à la Société de zoologie, un des assistants raconta que par 2 fois, aux Indes occidentales, il avait vu des vautours se rassembler sur le toit d'une maison où se trouvait un cadavre que l'on n'avait pas enterré en temps utile et qui sentait fort mauvais. Dans ce cas, les vautours n'avaient pu voir ce qui se passait. D'un autre côté, outre les expériences d'Audubon, outre celles que j'ai faites moi-même et que je viens de rapporter, M. Bachmann a fait aux États-Unis de nombreuses expériences qui tendent à prouver que ni le Catartes aura, l'espèce disséquée par le professeur Owen, ni le gallinazo ne découvrent leur nourriture au moyen de leur odorat. M. Bachmann recouvrit une quantité de viande pourrie et sentant fort mauvais avec un morceau de toile à voile et jeta des morceaux de viande sur cette toile. Les vautours vinrent en toute hâte manger ces morceaux de viande et après les avoir dévorés, restèrent tranquillement sur la toile sans découvrir la masse qui se trouvait par-dessous et dont ils n'étaient séparés que par le 1/8 d'un pouce. On fit une petite ouverture dans la toile. Les vautours se précipitèrent alors sur la masse. On les chassa, on remplaça la toile déchirée par une nouvelle toile, on plaça à nouveau des morceaux de viande sur cette toile, les mêmes vautours vinrent la dévorer sans découvrir la masse cachée qu'ils foulaient sous leurs pattes. 6 personnes, outre M. Bachmann, affirment ces faits qui se sont passés sous leurs yeux. Bien des fois, alors que j'étais couché par terre sur le dos au milieu de ces plaines, j'ai vu des vautours traverser les airs à une immense hauteur. Quand le pays est plat, je ne crois pas qu'un homme à pied ou à cheval puisse scruter avec attention un espace de plus de 15 degrés au-dessus de l'horizon. Si l'on est ainsi et que le vautour plane à une hauteur de 3000 ou 4000 pieds, il se trouverait à une distance de plus de 2000 anglais, 3,22 km, en droite ligne, avant de se trouver dans le champ de vue de l'observateur. N'est-il pas tout naturel que dans ces conditions, il échappe à la vue ? Ne se peut-il pas que quand un chasseur poursuit et abat un animal quelconque dans une vallée solitaire, un de ces oiseaux, à la vue perçante, suive de loin ses moindres mouvements ? Ne se peut-il pas aussi que leur façon de voler, quand ils descendent, indique à toute la famille des vautours qu'une proie est en vue ? Quand les condors décrivent cercles après cercles autour d'un endroit quelconque, leur vol est admirable. Je ne me rappelle pas les avoir jamais vus battre des ailes, sauf quand ils s'enlèvent de terre. Dans les environs de Lima, j'en observais plusieurs pendant près d'une demi-heure sans les quitter des yeux un seul instant. Ils décrivaient des cercles immenses, montant et descendant sans donner un seul coup d'aile. Quand ils passaient à une petite distance au-dessus de ma tête, je les voyais obliquement et je pouvais distinguer la silhouette des grandes plumes qui terminent chacune des ailes. Si ces plumes avaient été agitées, fût-ce par le moindre mouvement, elles se seraient confondues l'une avec l'autre. Or, elles se détachaient absolument distinctes sur le ciel bleu. L'oiseau meut fréquemment la tête et le cou, en semblant exercer un grand effort. Les ailes étendues semblent constituer le levier sur lequel agissent les mouvements du cou, du corps et de la queue. Si l'oiseau veut descendre, il replie un instant ses ailes. Dès qu'il les étend de nouveau en en modifiant le plan d'inclinaison, la force acquise par la descente rapide semble le faire remonter avec le mouvement continu uniforme d'un cerf-volant. Quand l'oiseau plane, son mouvement circulaire doit être assez rapide pour que l'action de la surface inclinée de son corps sur l'atmosphère puisse contrebalancer la pesanteur. La force nécessaire pour continuer le mouvement d'un corps qui se meut dans l'air dans un plan horizontal ne peut être bien considérable, car la friction est insignifiante, et c'est tout ce dont l'oiseau a besoin. Nous pouvons admettre que les mouvements du cou et du corps, du condor, suffisent pour obtenir ce résultat. Quoi qu'il en soit, c'est un spectacle véritablement étonnant, véritablement sublime, que de voir un oiseau aussi gros planant pendant des heures au-dessus des montagnes et des vallées.